Après un dimanche festif, nous reprenons un peu les habitudes et les bonnes habitudes d'un culte de tous les dimanches. Bon, Pierre-André m'a parlé de présentation, mais je ne sais pas si c'est vraiment la peine. Qu'est-ce que je devrais dire de moi, sinon que depuis 15 ans, je me pose la question de la retraite. Et je ne suis toujours pas tout à fait décidé. Donc, votre conseil m'a demandé ce matin de vous parler, dans la suite de cette série sur le Saint-Esprit, de vous parler en particulier de dons et de ministères. Si la technique suit, ben oui, elle suit la technique. C'est formidable. Alors la question s'est posée à moi de résumer en si peu de temps, un dimanche matin, un sujet. Si on m'avait donné quatre rencontres d'études publiques d'une heure, peut-être que ça m'aurait donné moins de travail que de résumer tout cela en si peu de temps. Mais je vais simplement essayer de vous donner quelques idées simples qui peuvent vous aider dans la vie chrétienne de tous les jours. Le but, c'est de vous aider dans votre démarche avec le Seigneur. Donc, quand on pose la question des dons et ministères du Saint-Esprit, la première question que j'ai notée, c'est on se pose déjà la question de quoi s'agit-il ? Parce que, en fait, aucun des quatre passages qui en parlent dans le Nouveau Testament ne nous donne une définition. Les lettres de Paul en particulier et de Pierre s'adressaient en fait à des églises où ces dons et ces ministères existaient. Et la question n'était pas de les définir, mais de permettre aux chrétiens de bien appliquer, de bien les utiliser. La deuxième question qui se pose, c'est comment justifier. On n'a pas besoin de le justifier par le simple fait que la Bible en parle. Et c'est pareil pour les ministères. Mais la question se pose ensuite quand même à chacun de nous, c'est de nous poser la question, comment cela fonctionne. Le Saint-Esprit équipe l'Église de plusieurs dons pour réaliser son service dans le royaume de Dieu et dans le monde. Alors j'ai fait juste un petit résumé, mais je passe rapidement dessus, sur la présence des différents dons dans le Nouveau Testament. La liste n'est même pas complète parce qu'elle était trop étendue pour tenir sur un diapo. Mais juste pour vous dire qu'il y a ces quatre passages, donc 1 Corinthiens 12 et 14, Romains 12, Éphésiens 4 et 1 Pierre 4 qui en parlent. C'est donc aux chrétiens de Corinthe en particulier que Paul explique, définit et précise le fonctionnement des dons et ministères. Il va y consacrer trois chapitres, les chapitres 12, 13 et 14 de la première épître, et il leur atteste au début d'un Corinthien, au chapitre 1er, au verset 7, qu'il ne leur manque aucun don aux Corinthiens, et c'est donc particulièrement pourvu en don de l'Esprit. Mais il doit corriger leur conception et leur pratique des dons et ministères. Parce que s'il avait voulu être un peu trop sévère, peut-être, il aurait pu leur dire aussi, il ne vous manque aucun désordre. Mais ce aurait été un peu trop sévère. Et l'apôtre était beaucoup trop constructif pour leur dire cela. Mais il était quand même amené pas mal de correctifs sur la façon de concevoir les dons. Et c'est ce qui nous aide à comprendre l'utilité et le fonctionnement des dons. Petite parenthèse, Il y a donc un lien direct entre la plénitude du Saint-Esprit et la valeur des dons et des ministères. Ralph Charis, que certains d'entre vous ont peut-être encore connu, a précisé le secret de cette plénitude en trois points. Il a dit, vous voulez être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire connaître cette plénitude qui est une condition ou une démonstration de la présence des dons. Un, une repentance instantanée avec confession de tout péché conscient. Et deux, une obéissance instantanée à la volonté de Dieu, révélée surtout dans sa parole. Et trois, une foi entière et qui agit et qui fonce pour Dieu. Lien direct, c'est peut-être la première leçon importante que je voulais partager avec vous. Il y a un lien étroit entre notre spiritualité et notre façon de recevoir et d'utiliser les dons du Saint-Esprit. Mais revenons donc à notre approche biblique. Dans 1 Corinthiens 12, dès le début, Paul commence par situer clairement les dons comme une émanation du Saint-Esprit qui glorifie le Christ. C'est par l'Esprit que nous affirmons que Christ est Seigneur. Et il va aussi souligner aussitôt l'antithèse. Personne ne peut dire par l'Esprit que Christ est anathème. Et ensuite, dans les versets 4 et 6 que je veux lire, je ne peux pas lire tout le chapitre qui est très long, mais les versets 4 à 6 de 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et vous avez peut-être remarqué qu'en une seule phrase, les trois personnes de Dieu, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, y figurent. Donc, et ceci pour établir la parfaite union divine des dons. Ensuite, dans les versets... Oh oui, je suis déjà un peu en retard. Après, dans les versets 7 à 31, donc le gros de ce chapitre, et aussi en 14-4, il définit en troisième lieu le but pour l'utilité commune. Et ça, il va le souligner encore et encore. Il va utiliser longuement l'image du corps humain, pour expliquer l'interdépendance et la complémentarité des dons et des services. Il n'y a pas de place pour l'individualisme, ni pour l'orgueil, ni pour une ambition personnelle. Et il va le résumer au verset 11, « C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. » C'est donc à l'initiative divine qu'il revient à nous équiper de dons. Et ceci en relation, encore une fois, directe avec notre spiritualité. Et après avoir défini les différents services et les différents dons, il résume, la Bible Osterwald traduit « désirer avec ardeur les dons les meilleurs » et conclut par la voie par excellence qui est le fameux chapitre 13 d'un Corinthien qui est l'hymne de l'amour. La nécessité de l'amour sans quoi le don sonne creux. La valeur suprême de l'amour. Alors chaque fois quand j'ai terminé un petit premier chapitre, j'essaie de faire une sorte d'interrogation, de résumer qu'est-ce que je comprends. Et peut-être, sans trop le dire, en vous posant la question, qu'est-ce que vous avez compris? Alors je vais le résumer. Je comprends que les dons sont donnés à l'Église pour l'aider à mieux remplir sa vocation d'édification des chrétiens et de l'évangélisation du monde. Le don a un but, et ce but, c'est d'honorer le Christ et de mieux permettre à l'Église d'accomplir son rôle de témoin pour l'édification des chrétiens et pour l'évangélisation du monde. Et que le don n'appartient pas, en fait, à la personne, au détenteur du don, mais le don appartient à l'Église. Le chrétien qui en possède un ou plusieurs est appelé à les utiliser en tant que ministère dans l'Église. Un ministère qui va être reconnu par l'Église, authentifié en quelque sorte par elle. Ensuite, les dons sont sans valeur s'il n'y a pas l'amour. C'est ce que tout le chapitre 13 que Paul intercale entre sa démonstration, ses encouragements, ses correctifs, pour montrer ce qu'il appelle la voie par excellence. Donc les dons sont sans valeur s'il n'y a pas l'amour. Il y a donc un lien direct, encore une fois, entre la spiritualité du chrétien et l'utilité et l'utilisation de son don. Et c'est pour cela que l'apôtre a tenu à intercaler délibérément le chapitre 13 dans sa démonstration. Vous savez bien que la question des dons n'a pas toujours uni les chrétiens, mais les a quelquefois même divisés. C'était particulièrement vrai avec l'arrivée du mouvement charismatique vers la fin du XXe siècle. Et face à ce mouvement charismatique naissant, Grigiona International avait précisé sa position, et je crois qu'ils ont eu une sagesse dans leur réaction, et ils ont dit: nous voulons nous laisser surprendre par l'action du Saint-Esprit pour empêcher l'empêtrement dans des structures figées. L'Esprit de Dieu nous garde en mouvement. Et deux, nous voulons relever le défi de réveiller et d'utiliser davantage les dons de l'Esprit, ce qui n'allait pas de soi dans beaucoup de milieux très conservateurs. Et trois, nous voulons renouveler notre consécration et notre adoration. Ce n'est pas la peur des déviations qui doit nous guider, mais la joie de ce que Dieu nous offre. Donc, sage prise de position. Mais revenons à notre texte. Donc, toujours au chapitre 14, l'apôtre va maintenant consacrer un long chapitre, le chapitre 14, pour démontrer la supériorité du don de prophétie par rapport au parler en langue. S'il le fait avec tant d'insistance, c'est qu'il répond visiblement à un problème de désordre dans l'église de Corinthe. Il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vanité, beaucoup d'individualisme ou d'orgueil par rapport même à l'utilisation des dons. Et son correctif est donc documenté dans le détail dans ce chapitre. Dès le début de ce chapitre donc conséquent, Paul va placer la prophétie au-dessus du don des langues. Et ceci à cause de l'utilité du don dans le culte chrétien. Le but de l'exercice des dons dans le culte est l'édification des croyants. Mais vous posez certainement la question, mais c'est quoi la prophétie? La prophétie est une parole à propos. Ça peut être un encouragement, un avertissement, une exhortation ou un enseignement. Elle peut s'adresser le plus souvent à l'Église, parfois à un individu ou à une personne. Mais elle n'est pas parole de Dieu. Le prophète du Nouveau Testament ne peut pas dire comme celui de l'Ancien Testament, « Ainsi parle l'Éternel ». Non, il doit au contraire soumettre ses paroles à l'examen des responsables de la communauté, au verset 29. Le prophète est responsable de ses paroles. Elle ne peut pas contredire ni ajouter à la révélation biblique. Mais elle a toute sa place dans nos cultes. Et l'apôtre la recommande chaudement. Un commentateur disait, comme tout autre don, si elle n'est pas dominée par l'amour, la prophétie n'a aucun sens. Ensuite, la question du don des langues. Il est encouragé au verset 5. Je voudrais que vous parliez tous en langue, il disait. Mais réduit au culte personnel du croyant. Pour être admis au culte, la présence d'un interprète est exigée. Il faut comprendre ce qui est dit. L'interprétation n'est pas forcément une traduction, c'est souvent qu'une explication en fait. Dans Acte 2, la question se pose, et se pose aux théologiens de pratiquement toute l'histoire de l'Église, est-ce que c'était ce qu'on appelle une xénoglossie, c'est-à-dire des paroles dans une langue existante, une langue étrangère existante, comme c'était le cas dans Acte 2, quand tout le monde comprenait ce que les apôtres disaient, et ils le comprenaient dans leur propre langue. Ou alors, que chez les Corinthiens, d'après le descriptif qui nous est donné, il semblerait plutôt d'un langage extatique et inconnu par celui qui l'exerce. Mais ce que nous apprenons, c'est que le don est limité à l'édification personnelle, sauf s'il y a interprétation au culte. Et dans mon expérience personnelle, j'ai très rarement entendu une explication. C'est un don différent de celui de parler langue, qui est celui de l'interprétation des langues, c'est-à-dire de comprendre ce qui est dit d'une façon incompréhensible par une personne. L'apôtre encourage donc sa pratique tout en donnant une nette priorité à la prophétie. Et ce qu'on doit préciser toujours aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on a le don de parler la langue qu'on est forcément un chrétien spirituel. J'ai parfois vu des exemples presque contraires, que c'était un sujet d'orgueil plutôt qu'un sujet de reconnaissance et d'édification. Là encore, je m'arrête pour me poser la question, qu'est-ce que je comprends et qu'est-ce que vous comprenez? J'ai essayé encore de le résumer en 4 points. Je comprends d'abord que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, au verset 32. Donc une discipline personnelle et communautaire s'impose dans la pratique des dons. Je dirais que là aussi, c'est une raison de plus de l'Église. L'Église est là pour compléter, pour nous compléter au niveau des dons, au niveau des sagesses, au niveau de l'enseignement, au niveau du partage. C'est l'un des secrets de l'Église, c'est que tout le monde ne sait pas tout. Tout le monde n'a pas tous les dons. D'ailleurs, l'apôtre va l'expliquer avec précision. Mais il y a complémentarité. L'édification des chrétiens est le but prioritaire dans l'exercice des dons. Je suis donc encouragé à pratiquer mon don dans ce sens. L'apôtre m'encourage surtout à aspirer au don de prophétie au premier verset. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en tenir compte de cet encouragement et à être attentif ou attentive à la voix de Dieu. Et je comprends encore, à l'exemple des chrétiens de Corinthe, qu'ils avaient de nombreux dons qui s'exprimaient au milieu d'eux. Et ça fait d'un côté envie. Des dons, oui, mais le désordre, non. Mais vu la richesse décrite dans les cultes qu'il y avait à Corinthe, je réfléchis sur ma contribution et ma participation au culte de mon Église. Et ça, je voudrais vous encourager, bien sûr, chacun. Et pour finir, je voudrais m'arrêter juste un instant sur les autres dons mentionnés. Si le don de prophétie, dans le tableau que je vous ai montré, est mentionné dans les quatre textes, celui, par exemple, de docteur ou d'enseignant est mentionné dans les trois et expliqué aussi dans le quatrième des textes. L'enseignement est omniprésent dans le Nouveau Testament et le chrétien est encouragé à écouter ses docteurs et pasteurs. Dans le fameux texte d'Actes 2, 42, qui pose en quelque sorte les quatre bases de la vie de la première communauté chrétienne, l'enseignement figure en premier. Mais nous trouvons aussi mentionné, les autres dons. Par exemple, le don de guérison. Là aussi, les chrétiens, les théologiens ne sont pas d'accord pour savoir est-ce que ce don existe toujours dans l'Église. Certains vont affirmer non, c'était le privilège des apôtres et des premiers chrétiens, mais ce qui est sûr, c'est que le don de miracle, autant de langue que d'assistance que de gouvernement, dans les versets 28 à 30 d'1 Corinthiens 12, il figure parmi les dons de guérison ou dons de la foi et qui existent, même si l'appréciation exige une certaine prudence. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'Église est confié le ministère de guérison. Cela nous est montré clairement déjà dans Jean 5 et surtout dans Jacques 5 qui nous encourage à ce ministère de guérison par les anciens de l'Église. La justification de se dire que la guérison ne peut pas être omniprésente ou partout exercée, sinon il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, mais c'est justifié, en tout cas c'est l'auteur de ce livre que je vais vous présenter tout à l'heure, il dit que Christ est devenu péché pour nous, d'après 2 Corinthiens 5, verset 21, il n'est pas devenu maladie pour nous. Des hommes et des femmes aimant profondément le Seigneur peuvent être affligés de maladies. C'est ce que nous constatons bien sûr autour de nous. Mais il y a d'autres dons qui sont mentionnés, et la liste n'est évidemment pas restrictive. Par exemple, des dons de discernement si précieux de nos jours face aux séductions multiples et aux nombreux problèmes relationnels. J'ai trouvé que ce don était particulièrement recherché par les chrétiens de nos jours. Je suis en train de lire la biographie de Maurice Serret, qui a dit à un moment, après 6 ans au ministère, il a reçu ce don de discernement. Et il s'est manifesté, comme c'était un homme de relations d'aide, il a mené des centaines et centaines d'entretiens avec des personnes, et il a dit que ce don lui est devenu extrêmement utile parce que quand il s'entretenait avec une personne, n'importe le sujet qui était abordé, il avait tout à coup une inspiration pour poser la bonne question qui touchait le fond du problème de la personne en face de lui, même si la discussion n'était pas à ce sujet-là. Il voyait tout de suite cette question-là, il faut la poser, et il voyait que c'était le Seigneur qui l'a guidé dans ce sens, don de discernement. Mais il y a aussi les œuvres qu'on appelle les œuvres de miséricorde, et aussi la présidence, la direction, l'exhortation, les aumônes, la relation d'aide, c'est Romains 12 en particulier qui nous donne ces indications-là. Ce sont des dons peut-être un peu plus cachés, en partie, en tout cas les dons de relations d'aide, mais combien précieux aux yeux de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit lui-même. « Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un des petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » Récompense pas forcément immédiate et tout de suite, mais un trésor dans les cieux. Voilà, donc il est temps de conclure. Mais encore une fois, nous voulons retenir. Les dons et les ministères sont des moyens que Dieu confère à l'Église de Jésus-Christ comme des outils pour la progression, la sanctification des chrétiens et l'évangélisation. Il est donc important que chaque chrétien découvre son don ou ses dons et les mette au service de la communauté. Les dons ne remplacent ni ne garantissent la sanctification personnelle. Ils n'ont pas de valeur en l'absence de l'amour. Et finalement, l'unité dans l'Esprit Saint se manifeste par l'interdépendance et la complémentarité des dons dans l'Église. Cela signifie pratiquement qu'être comme le chrétien Francis Chan la disait, être rempli de l'Esprit n'est pas un événement qui est arrivé une fois pour toutes dans notre histoire. Ça signifie que marcher par l'Esprit suppose une relation continue. Je ne veux pas chercher le spectaculaire, mais la bénédiction de Dieu dans ma vie et dans mon engagement dans l'Église. 1 Pierre 4, au verset 10, précise que chacun a reçu un don. Vous ne savez pas quel est votre don? Posez la question à ceux qui vous connaissent et peut-être aussi aux responsables de votre Église. Ils vont pouvoir vous aider à reconnaître quel est votre don. Dieu peut vous révéler votre don naturel et vous demander de le lui soumettre ou encore vous équiper d'un don surnaturel. Le principe est le même. C'est votre consécration qui est en cause, votre décision de glorifier Christ, votre Sauveur. L'apôtre nous encourage à aspirer aux dons les meilleurs. Au premier verset du chapitre 14. Encore 2 citations. Je ne peux pas pousser quelqu'un à tomber amoureux de Christ. Seul le Saint-Esprit le peut. Ainsi, pour tout ce qui compte réellement, j'ai besoin de l'Esprit Saint désespérément. Ou encore, le même auteur, je crois que l'esprit est à l'œuvre de façon plus évidente là où les gens ont désespérément besoin de lui, remplis d'humilité devant lui, et non détournés par leur recherche de richesse et de confort. Et il ajoute, comme c'est notre cas. Donc, j'arrive à ma conclusion, qui est encore du même auteur. Les manifestations de l'esprit sont utiles pour le bien de l'Église, c'est là leur raison d'être la plus évidente. Quand nos cœurs sont alignés à cette vision, quand nous sommes remplis d'un amour sincère pour l'Église et quand nous désirons la voir grandir dans son amour pour Dieu et pour les autres, c'est alors que l'Esprit veut nous utiliser. Les citations sont de Francis Chan ou Han, je ne sais même pas comment se prononce son nom, dans son livre « Dieu oublié » aux éditions BLF. Voilà donc juste quelques pensées très rapides, très incomplètes, et je suis désolé, mais pour essayer de vous encourager à demander des dons. Pourquoi ? Pour qui ? Pour l'enrichissement de l'Église, pour honorer le Christ, votre Sauveur et Seigneur. Je peux vous recommander un livre que j'ai lu en partie cette semaine, qui vient de sortir de presse d'ailleurs. Florent Varac, que certains peut-être connaissent, « Saint-Esprit, don spirituel, les enjeux actuels ». Il est très bien documenté et peut dire, mais il y a 400 pages. Je ne pourrais pas résumer 400 pages ce matin. Mais voilà ce qui pourra vous aider à approfondir. Mais l'important, c'est que vous placez vous-même devant le Seigneur, peut-être en regardant vous-même ces passages, notamment ces trois chapitres, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, qui parlent en détail de cette réalité des dons et de la façon de les utiliser pour sa gloire dans l'Église locale. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu as trouvé bon d'équiper ton Église, de lui donner force, courage et les moyens d'honorer ton nom dans ce monde qui a tant besoin de ce message du salut et de chacun de nous qui a tant besoin d'être encouragé dans sa foi personnelle. Je veux te remercier de ce que tu as un plan pour ton Église ici à Bouxwiller, que tu veux honorer ton nom dans l'Église et permettre que chacun puisse trouver sa place, son don, sa contribution pour le bien communautaire et surtout pour la gloire de ton nom. Et je veux te demander dans ce sens que tu puisses parler à chacun de nous. Amen.